J'étais à la journée d'officier à Yverdon et je savais toujours pas de quoi exactement je voulais parler par rapport à ce thème-là. Puis j'avais déjà prié avant, j'ai dit, mais Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux que je dise. Parce que des fois, ce n'est pas évident d'avoir un thème qui quelqu'un d'autre a pensé. Peut-être qu'il a déjà toutes les idées dans sa tête et tout ça. Pour moi, ce n'était pas évident qu'il y ait l'église que Jésus avait en tête. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je parle? Et puis en écoutant quelqu'un, tout d'un coup, ça m'est venu des choses. Ah oui, peut-être c'est ça que le Seigneur veut que je dise. Et puis j'ai commencé à prendre note. Et puis je dis, mais Seigneur, je te remets ça. Et j'espère vraiment que ce soit ça que tu veux que je parle. Mais je ne faisais pas vraiment confiance au Seigneur. Mais après, j'ai partagé, en fin de journée, j'ai partagé ça avec Thierry. Et puis je me suis vraiment sentie comme si Dieu me disait, mais c'est ça que je veux que tu parles. Alors c'est de ça que j'aimerais vous parler. Je crois vraiment que c'est aussi le désir du Seigneur pour nous, pour le poste d'Orbe aujourd'hui, pour notre Église. Alors, nous sommes encore dans la série l'Église que Jésus avait en tête. Puis j'aimerais juste récapituler un peu ce qu'on a écouté. Alors, le premier dimanche, Andrew nous a parlé du fait que le pardon de Dieu nous fait, le fait que Dieu nous a pardonné, nous fait entrer, nous fait faire partie de sa famille. Alors, le pardon de Dieu qui nous a fait entrer dans sa famille, qui nous fait, comme vous avez chanté là tout à l'heure, ça nous fait enfants de Dieu, ce pardon. Le pardon de Dieu nous fait ses enfants, ça nous fait partie de sa famille. Alors, le deuxième dimanche, Thierry nous a parlé de l'importance d'une conviction personnelle sur qui est Jésus. Alors, qui est Jésus pour moi? C'est la question que tout le monde, tous les chrétiens et puis non-chrétiens aussi, devraient se poser une fois dans la vie. La semaine avant les 140 ans, c'est Sylvette qui est venue nous parler. Il nous a partagé la prière que Jésus a faite avant de mourir pour ses disciples. Mais là, par rapport au message de Sylvette, je n'étais pas tout à fait d'accord sur un point. Quand elle a dit que Jésus n'avait rien dit par rapport à l'Église. Je dis, mais ça ne me semble pas. En tout cas, moi, je ne sens pas ça comme ça. Je pense que, ben oui, Jésus il a dit beaucoup de choses à l'Église. Parce que l'Église, c'est d'abord les gens. Alors, à chaque fois qu'il s'adresse à ses disciples, pour lui dire, mais comment doit être leur relation avec les autres, comment doit être leur relation avec Dieu, leur relation avec le monde, il nous parle en tant qu'Église. Nous faisons partie de ces personnes, nous sommes ces personnes, on fait partie de l'Église de Dieu. Et puis, une chose très importante que j'aperçois dans la vision de Jésus sur l'Église, et puis c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est par rapport à ce thème-là, je ne crois pas que l'Église soit un club. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Mais bien sûr que l'Église n'est pas un club. Mais est-ce qu'on a déjà réfléchi par rapport à ça? Plusieurs fois dans ce que Jésus a dit, dans ce qu'il a fait, on voit qu'il essaie de passer le message. Mon Église, mon royaume n'est pas un club. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous avez une idée de quand, plus ou moins, avec quelle action, ou avec... comment il a dit ça, que notre Église, l'Église n'était pas un club? Alors, j'ai quelques exemples, je vais vous partager. D'abord, il a choisi 12 pour marcher avec lui, de plus près, et pour leur enseigner profondément. Mais regardez ce qui s'est passé. Les disciples lui disent, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en usant de ton nom. Et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. » Alors, est-ce qu'ils étaient un groupe? Voilà, les 12 et puis les autres. Ok, il n'appartient pas à notre groupe. Il ne fait pas partie du club. Mais Jésus la répondit, « Ne l'empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et tout de suite après dire du mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Alors Jésus a tout de suite montré, « Non, mais ça ne marche pas comme ça. Hein. » Ou encore un autre épisode. Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche. Mais les disciples leur font des reproches. Ils ne sont pas contents. Mais là aussi, on pourrait dire peut-être que les disciples pensaient, « Ah, mais les enfants, ils sont bruyants, ils n'écoutent pas vraiment les enseignements. » Ou peut-être qu'ils vont même déranger les parents pour aller faire pipi, mais les enfants, peut-être, ne sont pas les bienvenus ici. Peut-être qu'ils ont pensé ça, on ne sait pas. Mais Jésus, il a encore une fois réagi. Il a dit, en voyant cela, le verset dit, en voyant cela, Jésus se met en colère et dit à ses disciples, alors il se met vraiment en colère, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. » Ensuite, Jésus embrasse les enfants, il les bénit en posant les mains sur leur tête. Alors encore une fois, on essayait de séparer un groupe, les adultes, un groupe, les enfants. Et alors Jésus, avec ses paroles et son attitude, passe de nouveau le même message. Mon Église, le royaume de Dieu, est pour tout le monde, aussi pour les enfants. Et regardez encore le troisième exemple, là, il en a plusieurs. Hein. Mais Jésus passe par un endroit où il a un bureau d'impôt. Il voit Matthieu et dit, « Suis-moi. » Matthieu le suit, ils vont manger ensemble chez lui. Mais après le verset, il dit, « Beaucoup d'employés d'impôt et pêcheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. » En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus, « Votre maître mange avec des employés des impôts et avec des pêcheurs. Mais pourquoi donc ?» Encore une fois, c'est la même attitude des disciples. Ils sont en train de se demander, mais pourquoi ils traînent avec ceux qui n'en font pas partie du club? Ils ne sont pas des bonnes personnes, et pourquoi il est avec eux? Et Jésus leur répond, allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler ceux que se croient justes, mais ceux que se reconnaissent pécheurs. Alors, combien de fois on juge? Peut-être on ne dit pas forcément, mais dans notre tête, je ne sais pas, ou on dit vraiment. Mais on fait vraiment cette séparation. Ceux-là, ils font partie du club, ceux-là, ils ne font pas partie du club parce qu'ils sont comme ça, parce qu'ils agissent comme ça. Et puis Jésus, il dit, allez apprendre ce qui signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et puis les paroles de Jésus me font écho parce qu'une fois, quand j'étais à la recherche d'une église, je pense que j'avais, je sais pas, 13, 14 ans, voilà. Je suis allée visiter quelques églises parce que, avec ma maman, elle m'avait amenée à l'église catholique et je ne me sentais pas vraiment à ma place, je ne trouvais pas ma place là-bas. Et puis, je suis allée chercher d'autres églises. Je suis arrivée dans une église où c'était quand même, j'avais l'impression que c'était genre un. On devait suivre les règles pour pouvoir faire partie de cette église. Mais vraiment, c'était clairement comme ça. Tu dois t'habiller comme ça. Tes cheveux doivent être longs, presque toucher le pied. C'était vraiment un truc carré. Je me suis dit, mais ça ne fait pas de sens. Et puis des gens qui étaient sûrs qu'ils étaient sauvés et pas les autres. Tous les autres qui étaient à l'extérieur, non, ils ne sont pas sauvés. Non, ça c'est sûr. Mais nous, mais si, nous on est sauvés. Puis là, je dis, mais c'est quand même bizarre. Je ne pense pas que Dieu me demande de faire ça. Alors c'était un peu, voilà, c'était forcément, c'était vraiment comme si les sacrifices, là, qu'on a parlé sur l'autre verset, là, les sacrifices, ils étaient essentiels pour faire partie du club. Tu entres ici, mais tu dois faire exactement comme ça. Donc là, vraiment, je n'ai pas ressenti l'amour de Jésus. Surtout pas. Pour moi, cette église passait vraiment l'impression qu'ils croyaient que seulement eux allaient au ciel, que seulement eux étaient sauvés. Et puis, si je voulais aussi faire partie de ce club-là, il fallait faire beaucoup de sacrifices. Donc, je me suis vite sentie à l'écart du club. Là, je pense que je suis allée une ou deux fois, mais les deux fois où je suis allée, je me suis sentie vraiment à l'écart, je me suis sentie sale, coupable, parce que voilà, ils passaient l'impression qu'ils étaient des saints, qu'ils louaient le Seigneur, et puis moi j'étais quoi là, au milieu de ces personnes. Mais voilà, je n'ai pas pu sentir cet amour. Mais c'est ce que Jésus était encore de combattre. Quand il a dit aux pharisiens, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Alors ces personnes qui avaient là l'ego, ah oui, mais moi je suis sauvé, moi je fais ci, je fais ça, et puis je suis sauvé. Mais le Seigneur, il n'appréciait pas ça. Je ne sais pas comment était leur cœur à l'intérieur, je ne sais pas comment ils vivaient ça. Mais Dieu, il préférait qu'on puisse se reconnaître pécheurs. Alors c'est comme si les pharisiens disaient comme ça, soyez justes et vous ferez partie de mon église. Mais Jésus, il dit, reconnaissez que vous êtes pécheurs et vous ferez partie de mon église. Et puis moi, je ne veux pas être une église, faire partie d'une église avec une attitude de pharisiens ou des disciples qui se croient dans un club. Mais peut-être que j'ai déjà eu cette attitude. Ou que je l'ai encore en certains moments. Un exemple, c'est que quand on est arrivé en Suisse, ça m'a vraiment choqué, c'est le mot, ça m'a vraiment choqué, le fait que les chrétiens boivent de l'alcool. Ça m'a vraiment choqué. Pour vous, c'est bête, mais pour moi, c'était waouh, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais parce qu'au Brésil, les chrétiens, ils ne boivent pas du tout. Pas seulement l'armée de salut, hein. Les chrétiens de façon générale, ils ne boivent pas du tout. Et puis aussi les exemples que j'ai eus, par exemple j'ai eu un beau-papa qui buvait, il n'avait pas de jour, pas de moment, peu importe, matin, l'après-midi, le soir, peu importe. De lundi à lundi, voilà, c'était comme ça. Alors des personnes qui n'avaient vraiment pas de limite. Alors, quand je suis arrivée ici, je dis, ok, mais comment c'est possible que les gens... Pour moi, ça n'arrivait pas. Alors, j'ai tout de suite jugé. Mais ils sont chrétiens, ils boivent, mais c'est... Je préfère ne pas parler de ça. Mais là, après coup, j'ai vu que ce n'était pas ça que faisait de ces personnes de moi, qui faisait de nous, qu'on nous faisait partie, faire partie de l'Église de Dieu. Comment c'est possible de penser de cette manière-là, de dire, mais ok, mais toi, tu fais ça, alors tu n'es pas du tout ok. Moi, je ne fais pas ça, alors je suis ok. Alors, pour dire qu'on a des préjugés, même dans l'église, on dit, ah non, mais ces personnes-là, elles sont quand même un peu bizarres. Mais oui, mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas du tout ça qui nous fait croire ou ça nous détermine partie de l'église ou pas. En Samuel 16, 1 Samuel, 1 Samuel 16 dit, je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce que se voit, mais moi, je regarde le fond du cœur. Alors, ouais, c'est clair là. Il ne faut pas juger l'apparence. On ne sait pas ce que les gens ils vivent à l'intérieur. On ne sait pas. Des fois, il y a tellement de personnes qui sont là dans l'église tous les dimanches, toute la semaine. Ils vivent une vie médiocre en dehors de l'église. Et puis d'autres qui non, même s'ils boivent de temps en temps, ils sont OK avec Dieu. Alors comment on peut juger ça comme ça? Alors, si Jésus vivait ce message de ne pas juger selon l'apparence quand il a marché sur terre, je crois vraiment que ça, c'est aussi un message de Jésus pour nous en tant qu'Église aujourd'hui. Il veut qu'on fasse la même chose. Et puis cela, c'est encore plus vrai pour notre Église, pour l'armée de salut, parce que dès le début du travail, de l'appel premier de notre Église, l'appel, c'était pour les exclus et les sans-Église. Alors, est-ce qu'on vit toujours ça? Alors, ce que personne ne voulait. Et William Bus, il a dit ça une fois, aller vers les âmes et viser les pires. Mais peut-être vous dites, mais il est en train de juger là. Il parle des pires, mais qui sont les pires? Mais ce n'était pas lui qui disait que ces personnes, elles étaient les pires. C'était la propre société qui disait, mais ceux-là sont les pires parce qu'ils sont en train de boire, parce qu'ils sont en train de, je ne sais pas, ils ont une addiction, parce qu'ils ont ci, ils ont ça. Alors, la société montrait que ces personnes, elles étaient les pires. Et puis, il a dit, mais visez cela. Allez chercher ces personnes-là. Alors, ce qu'il voulait dire avec les pires, c'était ce que les gens considéraient comme les pires, ce que personne n'accordait aucune valeur. Ce qui était bizarre, qui peut-être avait une vie complètement déréglée et qui était bien au-delà d'une vie bien correcte d'un chrétien. Alors, allez chercher ces personnes-là. C'est notre appel. Toujours, hein? Et puis, aujourd'hui encore, dans l'engagement d'officier, on signe cette phrase qui dit « J'aimerais les mal-aimés et je serais l'ami des sans-amis. » Mais ça ne veut pas que pour nous, hein, les officiers, ça veut pour tout le monde. « J'aimerais les mal-aimés et je serais ami des sans-amis. » Mais alors, comment on peut devenir cette Église qui veut recevoir tout le monde? Et quand on parle de tout le monde, on parle des personnes qui sont bizarres, peut-être. Des personnes qui n'ont pas beaucoup de choses en commun avec nous. Les pires, comme il disait William Booth. Et puis pour ça, j'ai trois points qui peuvent vraiment nous faire réfléchir et nous aider dans cette réflexion-là. Mais comment devenir cette Église qui accueille tout le monde, qui a vraiment les bras ouverts? Puis je pense qu'on peut commencer par dire que c'est vraiment très important le fait d'être transparent sur nos propres faiblesses, sur nos propres manquements. Alors l'année passée, Thierry a changé sur le site du poste la description qu'il avait sur notre Église. Et puis il l'a mis comme ça. Bienvenue dans une communauté des personnes imparfaites à la recherche de Dieu. Je pense que c'est bien. Ou est-ce qu'on est parfait? Je ne pense pas. Hein? Non, alors il faut vite dire, mais l'Église n'est pas l'endroit de personnes parfaites. Ça, on peut dire clairement, n'est pas l'endroit des personnes parfaites. Loin de ça, mais c'est la place des personnes qui recherchent la volonté de Dieu et encore recherchent vivre sa volonté. Alors c'est ça qu'on fait là. On n'est pas parfait, mais on recherche la volonté de Dieu et on recherche vivre sa volonté. Et puis franchement, je crois qu'on devrait être champion pour dire les choses honnêtement. Par exemple, ah oui, j'ai de la peine à contrôler mon temps d'écran. Ou alors, s'il te plaît, prie pour moi, j'ai vu un moment difficile dans mon couple. Et puis, je n'arrive pas à bien communiquer. Des fois, j'ai plutôt envie de rester au travail que d'arriver à la maison. Ou encore, pardonne-moi parce que j'étais de nouveau blessée. Mais est-ce qu'on fait vraiment ça? Est-ce qu'on montre clairement nos difficultés? Est-ce qu'on a ce courage? Je pense que le fait de montrer nos faiblesses, ça montre aussi qu'on n'est pas supérieur aux autres. On ne se sent pas supérieur aux autres. Et c'est ça que Jésus voulait dire quand il a dit « Je suis venu appeler ceux que se reconnaissent pécheurs ».
Jésus voulait une église qui les gens savent se reconnaître pécheurs. C'est vraiment cette transparence qui fait que les gens de l'extérieur ressentent qu'on n'est pas un club, qu'ils sont les bienvenus avec leurs propres faiblesses. On est tous les mêmes. Qu'on est imparfait et on fait partie d'une église et qu'eux aussi, ils peuvent faire partie d'une église. Mais une chose qui m'étonne, c'est comment c'est peut-être pas souvent, mais les personnes qui sont hors église, ils ont peut-être plus de facilité d'avouer leurs difficultés. Et puis j'ai un exemple que j'ai vécu, ça fait quelques semaines. J'y allais avec Annelise visiter les dames en situation de prostitution. Et puis on est arrivé chez une dame qui avait, je pense, environ 60 ans, voilà. Mais elle a tout de suite commencé à raconter sa vie. Elle nous a dit, ah oui, mais je vis ça. Elle a avoué ses difficultés. Et à la fin, elle a demandé, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Mais qui aurait le courage de faire la même chose? Tu rencontres la personne la première fois de ta vie, tu ne l'as jamais vue dans ta vie. Et puis tu dis, mais je vis ça. Voilà mes luttes, mes difficultés. Je te demande de prier pour moi. Mais qui aurait fait ça? Moi, en tout cas, je pense que je ne le ferais pas comme ça. Mais cette dame, elle a eu le courage d'avouer ses peines-là, de se montrer voilà, vulnérable, faible. Celui-là, je vous montre ce que je suis, ce que je fais, puis je vous demande de prier pour moi. Et bien sûr, on l'a fait avec beaucoup de joie, on a prié pour cette dame. Et puis à la fin, elle a dit, oui, mais quand on veut faire bien les choses, on a des ennemis qui se lèvent. Et puis je dis, oui, mais pas seulement des ennemis physiques à côté de nous, qui ne sont pas d'accord avec nous, parce que là, elle voulait dire qu'elle voulait s'en sortir de cette vie. Je dis, mais on a aussi une bataille spirituelle qui se passe en même temps. Et puis elle a dit, oui, c'est vrai. Alors, je dis, mais c'est incroyable. Il nous faut ça, il nous faut ce courage. Là, bien sûr, on ne va pas parler de notre vie, de nos difficultés à tout le monde. Non, mais ce n'est pas un problème d'avouer que nous sommes des pécheurs. Voilà, on est faibles, on est tous imparfaits. Et puis, je pense que ça, c'est une clé. Ça peut vraiment nous aider à être cette église, à devenir cette église qui accueille tout le monde. Alors, une deuxième manière de montrer cet amour de Jésus, c'est de s'entraîner à être ministre de l'inclusion. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Cela veut dire être attentif aux personnes qui peuvent se sentir peut-être à l'écart, peut-être comme un poisson hors de l'eau, et puis aller vers ces personnes, les diriger la parole, leur poser des questions, essayer que ces personnes puissent se sentir chez eux. Et pour ça aussi, j'ai un exemple récent. C'est quand Annelise et Stéphane ont proposé à Marlette de cuisiner un plat érythréen chez eux. Ils l'ont donné aussi la liberté d'inviter ceux qu'elle voulait pour cette soirée. Et on a pu vivre cette soirée aussi avec eux. Mais c'était tellement incroyable comme elle s'est sentie bien, comme elle s'est sentie joyeuse et valorisée juste par le fait de préparer à manger sa nourriture à elle, à quelqu'un d'autre. Alors c'était bienveillant, ils ont dit ok, on va inclure ces personnes aussi. Et puis ils ont fait ça. Je vous encourage à faire le même, peut-être pas exactement de la même façon, mais qu'on puisse essayer d'inclure les gens. Et puis le troisième point, c'est qu'on doit accepter que les personnes seront différentes de nous. Les personnes seront différentes de nous. Elles auront des goûts différents, des habitudes différentes. Il faut accepter ça. Alors, si on reprend le premier groupe que j'ai parlé là, des versets, celui qui chassait des esprits mauvais, Alors, ils étaient différents parce qu'ils n'étaient pas, du groupe des 12, comme j'avais dit avant. Alors, ils étaient différents parce qu'ils ne faisaient pas partie des 12. Alors, c'est comme s'ils n'avaient pas le droit de guérir ou de chasser des mauvais esprits. C'est comme s'ils faisaient partie d'une autre église. Mais pour Jésus, ça c'était OK. Dans le deuxième exemple, les enfants étaient différents des disciples parce qu'ils n'avaient pas peut-être le même niveau d'attention, la même maturité, parce que oui, c'est des enfants. Mais pour Jésus, c'était très OK. Il a dit que le royaume de Dieu était aussi pour les enfants. Et puis dans le troisième exemple, les pêcheurs et les collecteurs d'impôts étaient différents parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu comme les autres. Mais ils voulaient la présence de Jésus, ils voulaient être avec lui. Ils avaient soif. Et puis bien sûr, Jésus ne considérait pas ce qu'ils faisaient comme juste, les collecteurs d'impôts. Mais pour l'instant, c'était OK pour lui. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit tout de suite qu'il devait changer d'attitude? Mais comme Andrew nous a dit aussi le premier message, la séquence est la suivante. Dieu nous aime tel que nous sommes. C'est déjà une chose. Et après vient la deuxième. Mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on continue comme nous sommes. Et puis c'est ça qu'il a fait avec ses pêcheurs et collecteurs d'impôts. Il les a simplement aimés. Alors je vous aime, je passe du temps avec vous. Mais bien sûr, plus tard, je ne veux pas que vous continuiez de la même façon. Je vous aime vraiment beaucoup. Et j'espère que vous allez changer. Mais c'était d'abord aimer. D'abord montrer cet amour. D'abord passer du temps ensemble. Mais c'est ça, le point 2, il vient seulement en conséquence du point 1. On aime, ensuite les changements peuvent se passer. D'abord, il faut être convaincu de l'amour de Dieu pour ensuite changer. Et puis c'est ça qui m'est arrivé. Une fois que j'ai senti vraiment l'amour de Dieu pour moi dans une église, et puis c'était à l'armée du salut, c'est là que j'ai eu le courage de changer. C'est là que je dis, mais alors c'est ça que Dieu me demande? Alors je vais le donner ça. Je vais le donner. Tandis que pour d'autres, je dis, non, c'est quand même bizarre. Ça ne fait pas de sens. Dieu ne me demande pas de faire ça. Tandis qu'à l'armée du salut, j'ai senti l'amour de Dieu pour moi. Et là, je dis, OK, Seigneur, alors je te donne ma vie, je te donne tout. Alors, on peut déjà aimer ces personnes qui arrivent telles qu'elles sont, même s'ils sont différents de nous. Et petit à petit, les choses vont changer. Dieu va faire son œuvre. Et puis, quand on parle de club, j'ai aussi un exemple que Thierry m'a raconté hier. Il était à Lutry pour un culte en commun avec d'autres églises qui ont célébré le culte pour Cromantana. Alors, il y a plusieurs églises qui étaient à Lutry aussi qui étaient invitées. Et Thierry, il était avec Adrienne. Puis, il a dit qu'il a vécu un très bon culte. C'était vraiment touchant comment ils ont préparé tout ça. Mais quelque chose lui a marqué, c'est que voilà, ils ont fait la Sainte Cène à la fin. Et puis Thierry, il est allé parler avec le pasteur. Et puis il a dit, mais c'est vraiment chouette. Et puis, pour dire que la Sainte Cène, elle était pour tout le monde. Tout le monde pouvait prendre la Sainte Cène. Et puis Thierry, il était étonné de ça, parce qu'on sait qu'à l'Église catholique, on n'a pas le droit. C'est pas tout le monde qui a le droit à la Sainte Cène. Et puis il est allé vers le pasteur, il a dit, mais c'est chouette comment vous faites de donner l'opportunité à tout le monde de vivre la Sainte Cène. Et puis, vous savez quelle était la réponse qu'il a donnée? Bien sûr, on n'est pas un club. Je dis, mais c'est exactement ça, on n'est pas un club. Alors, c'est pour tout le monde. Personne n'est meilleur que l'autre. Et puis, c'est ça qui me touche quand je rencontre des personnes, par exemple, dans les prisons, ou des dames en situation de prostitution, ou d'autres, c'est que je ne me sens pas mieux que ces gens-là. Parce que, effectivement, je ne suis pas mieux que ces personnes-là. Il faut qu'on garde ça en tête. On n'est pas mieux que les autres. Hein. Même si on a peut-être plus d'argent, même si on ne boit pas de la gueule et les autres ils boivent, on n'est pas mieux que les autres, pas du tout. Il faut garder ça en tête. Et puis je résume ce message de l'Église, que l'Église n'est pas un club, avec le verset de Jean 13, 34, quand Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et puis la suite, c'est ce que j'essaie de dire pendant tout mon message, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une fois qu'on montre de l'amour aux autres, on montre Dieu, on montre Jésus. On les accepte tels qu'ils sont. Et puis on ne se sent pas supérieur aux autres. Voilà, on ne fait pas partie d'un club. Et puis je pense que Jésus, il a voulu montrer ça aussi. Il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut qu'on soit au clair par rapport à cette parole-là. Mais c'est écrit dans la Bible, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et en faisant ça, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, si vous pouvez garder quelque chose de ce message, gardez ce verset. Peut-être que j'ai dit beaucoup de choses, mais là, gardez ce verset. C'est très important, je pense que si vous vivez ce verset, c'est tout bon. C'est tout bon. Même si des fois, bien sûr, c'est difficile. Hein. Je ne veux pas dire qu'aimer les personnes qui sont le contraire de nous, c'est facile. Non. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que Jésus l'a fait quand il était sur terre. Alors, on peut aussi, avec son aide, faire la même chose. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Tu nous as tellement aimés qu'il t'a envoyé ton Fils pour mourir à la croix. Pour qu'on puisse devenir tes enfants. Pour qu'on puisse faire partie de ta famille. Merci Dieu, parce que tu as un amour juste, incroyable. Puis on te demande vraiment de vivre ces vérités-là. Seigneur, qu'on puisse réfléchir à l'idée qu'on n'est pas un club, un endroit fermé où on rencontre les mêmes personnes à chaque fois, mais qu'on puisse ouvrir nos portes pour recevoir les gens qui viennent de l'extérieur, qui sont différents de nous, bien sûr, qui seront différents. Qu'on puisse les accepter tels qu'ils sont, les aimer, les inclure aussi. Seigneur, viens nous aider à devenir de meilleurs chrétiens. Des fois, on est tellement égoïste. Je peux parler pour moi. Quand on pense que à nous, je pense que à moi, oui, à mes intérêts, à mon bien-être. Mais tu veux plus que ça, Seigneur. Tu veux notre cœur. Tu connais notre cœur. Alors, on te demande pardon pour les fois où on a jugé, on a eu des préjugés, Seigneur. On te demande de nous aider à apprendre à chaque fois à devenir cette Église qui ouvre les portes, qui accueille, qui aime, et pas seulement dans les paroles, mais dans les actes. Viens nous apprendre à aimer. Viens vraiment nous aider à aimer, Seigneur, qu'on puisse aimer comme toi. Merci pour ta parole qui n'est pas annoncée en vain. Je te demande vraiment de continuer ton œuvre en nous. Sois loué, sois adoré, glorifié parce que tu es Dieu, celui en qui on a mis notre confiance, celui en qui on a donné notre vie. Seigneur, qu'à chaque jour on puisse faire ça. Revenez vers toi, Seigneur, et te demander de nous montrer le chemin. Humblement, qu'on puisse avouer nos faiblesses, nos difficultés, qu'on puisse avancer ensemble. Je crois que c'est ça vraiment ton désir pour. pour ton Église. Qu'on puisse être sensible, Seigneur, aux besoins des autres. Aide-nous, Seigneur, à aimer.